Vous êtes avec SBS French. Et tout d'abord, les grands titres de ce 31 octobre, les dirigeants du G20, des plus grandes économies du monde, se réunissent pour approuver un accord fiscal mondial et discuter des vaccins contre le coronavirus pour les pays les plus pauvres. Une nouvelle campagne d'information publique visant à accroître la sensibilisation à l'importance de la cybersécurité et à améliorer la sécurité en ligne sera lancée en Australie ce dimanche. Les dirigeants du G20 se sont réunis dans la capitale italienne, à Rome, pour leur premier sommet du G20 en 2 ans, pour discuter d'un large éventail de questions, notamment la réforme fiscale et la pandémie mondiale de coronavirus, notamment l'envoi de plus de vaccins Covid aux pays les plus pauvres. Le Premier ministre italien, Mario Draghi, a ouvert le sommet et a appelé à la coopération pour mettre fin à la pandémie mondiale de coronavirus.
The more we go with all our challenges, the more it is clear that multilateralism is the best answer to the problems we face today.
Le Premier ministre australien Scott Morrison a également souligné la nécessité de lutter contre la pandémie.
This is a very pivotal time for the world. The pandemic is still raging and the economic recovery, particularly in the developed world, is really getting underway. And so it's important that we balance these challenges as we go forward.
Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine ne participent pas au sommet, mais sont plutôt apparus par vidéo. Les pays pauvres sont absents et l'ONG One se veut être leur porte-parole. Explication de Dominique Bayard pour RFI.
Les pays les plus riches ont beaucoup promis, mais encore trop peu livré de vaccins, déplore l'ONG britannique. Elle exige aujourd'hui de la transparence sur les engagements pris. Pour sa directrice Europe, Emily Wiggins, l'autre urgence, c'est l'économie.
On entend beaucoup parler de la relance de l'économie mondiale, mais les faits sont là. Dans les pays riches, l'économie a déjà retrouvé son niveau d'avant la pandémie, tandis que dans les pays à bas revenus, et surtout en Afrique subsaharienne, ils se débattent encore avec la crise.
Pour les aider, la solution est là. Ce sont les fameux DTS, les droits de tirage spéciaux, les fonds débloqués cet été par le FMI, qui bénéficient surtout aux plus riches, rappelle Emily Wiggins.
Par exemple, si vous prenez le Canada, il reçoit plus de DTS que l'Ouganda, un pays en plus grande difficulté économique et avec une population bien plus importante. Donc, on veut que le G20 rétablisse l'équilibre. La France le fait déjà, en consacrant 20% des fonds alloués aux pays à bas revenus. On aimerait bien que d'autres suivent.
Dernier point crucial pour l'ONG One, le fonds climat. Encore une promesse non tenue, les 100 milliards de dollars que les pays pauvres devaient recevoir dès 2020 seront atteints en 2023. Trop tard pour One, c'est maintenant que les pays riches doivent tenir leurs promesses avant l'ouverture de la COP26.
Et voilà donc pour ce reportage de Dominique Bayard. Et puis hier à Rome, plusieurs démonstrations pacifiques pour la justice climatique. Anne Lenir, RFI.
Réunis sous la bannière « Vous le G20, nous l'avenir », défilant au rythme des tambours et tambourins, les milliers de personnes contre ce sommet des pays les plus riches ont manifesté de manière totalement pacifique. Après un parcours de plusieurs kilomètres, le cortège, composé surtout de jeunes étudiants, s'est dissous devant la très symbolique bouche de la vérité. Avec cet appel lancé en chœur, nous demandons la justice climatique. Une autre manifestation organisée par le comité d'obédience communiste, No Draghi, s'est tenu sur la célèbre place San Giovanni et n'a rassemblé qu'environ 200 contestataires. Les anti-G20 se sont donné un nouveau rendez-vous ce dimanche. Ils se réuniront dans le théâtre du quartier populaire de la Garbatella.
Et puis un large éventail de questions a été discuté, notamment l'approbation d'un accord sur un impôt minimum mondial sur les sociétés de 15% en vue d'avoir les règles en vigueur en 2023. En octobre, 136 pays sont parvenus à un accord sur un impôt minimum sur les sociétés mondiales, y compris des géants de l'Internet comme Google, Amazon, Facebook, Microsoft ou Apple, pour leur rendre plus difficile l'évasion fiscale en établissant des bureaux dans des juridictions à faible imposition. Le chef de l'OCDE et ancien ministre australien des Finances, Matthias Cormann, a déclaré que cela changerait la donne.
The 100 thereabouts largest and most successful multinationals around the world now have to pay their fair share of tax in the markets in which they operate and generate profits. And on top of that, we've also agreed, and leaders have agreed, to a pillar two of that reform, which introduces a minimum corporate tax rate of 15%. So what that does, it completely eliminates the incentive for businesses around the world to restructure their affairs in order to avoid tax.
Le président russe Vladimir Poutine a appelé les économies développées du monde à reconnaître mutuellement leurs certificats de vaccin pour aider à redémarrer l'activité économique après la pandémie de Covid-19. Vladimir Poutine a appelé au développement de mécanismes pour un renouvellement systémique et rapide des vaccins contre le Covid-19, le virus devant continuer à muter. Le premier ministre australien Scott Morrison a rencontré le président français Emmanuel Macron pour la première fois depuis que l'Australie a abandonné le programme de sous-marins français de 90 milliards de dollars. La brève rencontre s'est produite donc en marge du sommet du G20 à Rome et intervient après que le président Macron ait téléphoné à Scott Morrison avant son départ pour l'Europe. Et au cours de cette conversation, le président français a déclaré à Scott Morrison que l'Australie, je cite, avait rompu la relation de confiance entre les deux pays.
He was having a chat to someone. I went up and just put my arm on his shoulder. I said, "G'day, Emmanuel, and look forward to catching up over the next couple of days."
En Australie, une nouvelle campagne d'information publique visant à accroître la sensibilisation à l'importance de la cybersécurité et à améliorer la sécurité en ligne sera lancée ce dimanche. La ministre de l'Intérieur, Karen Andrews, a déclaré que la campagne offrirait des conseils utiles à tous les Australiens qui utilisent Internet ou qui possèdent un appareil numérique. Elle déclare que les téléphones, les smartphones, les téléviseurs, les routes Wi-Fi, les comptes de médias sociaux, les emails et les transactions de commerce électronique peuvent tous être exploités par des criminels. Le grand homme du show business australien, Burt Newton, est décédé à l'âge de 83 ans après avoir subi des soins palliatifs à Melbourne. La longue carrière de Newton, qui a commencé dans les années 50, comprenait des représentations à la radio, à la télévision et au théâtre. Les Néo-Zélandais seront libres de venir dans le Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud sans quarantaine à partir de demain, lundi 1er novembre. Le ministre du Commerce, Dan Tehan, a déclaré qu'il s'agissait d'une étape importante dans l'ouverture des frontières australiennes.
So we're looking for news in the coming days with regards to Singapore. We've had that under active consideration, and as of Monday, as of tomorrow, Australians doubly vaxxed will be free to leave. This is wonderful news for Australians because Australians love to travel.
La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 177 nouveaux cas de COVID-19 et un décès ce dimanche. C'est la première fois en près de 3 mois que le nombre de cas passe en dessous de 200. Le nombre d'hospitalisations a également légèrement diminué. Le Victoria a enregistré 1036 cas de COVID-19 et 12 autres décès liés au virus ce dimanche. Plus de 700 patients atteints du virus sont toujours hospitalisés, dont 128 en soins intensif. Le Victoria est désormais entièrement vacciné à 80% pour les personnes âgées de 16 ans et plus. L'Australie occidentale resserre davantage sa frontière, interdisant les voyageurs non vaccinés du Victoria, de New South Wales et de l'ACT à partir de cette semaine. Mark McGowan, qui dirige le WA, introduira à partir de vendredi prochain une politique de vaccination complète contre le Covid-19 pour les voyageurs en provenance de juridictions à risque moyen, élevé et extrême. Le Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud sont actuellement considérés comme à risque extrême, tandis que l'ACT est considéré comme risque moyen. La politique sera étendue aux États et territoires à faible risque à partir du 15 novembre prochain, bien qu'aucun État et territoire ne relève actuellement de cette classification. Le risque très faible est en place pour le Queensland, la Tasmanie, l'Australie méridionale et le territoire du Nord. Le vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 autorisé pour les enfants âgés de 5 à 11 ans aux États-Unis. Les précisions de Valérie Cohen pour RFI.
Pour les 5-11 ans, Pfizer et BioNTech ont développé un vaccin moins concentré que celui destiné aux plus de 12 ans. La quantité de principe actif, le fameux ARN messager, est de 10 microgrammes au lieu de 30. Alors quid de son efficacité? Selon des essais cliniques menés par Pfizer chez des enfants de cette tranche d'âge, elle serait de 90% sur les formes symptomatiques de Covid. Des analyses de la réaction immunitaire vont aussi dans le sens d'une bonne protection. Le dosage des anticorps neutralisants chez les 5-11 ans s'est révélé similaire à celui des 16-25 ans vaccinés, eux, avec le produit initial. Du côté des risques liés au vaccin, il n'y a pas eu d'effet indésirable sérieux parmi les 3000 enfants vaccinés lors des essais, en particulier pas de myocardite, une inflammation du cœur, mais cela reste un point de vigilance. En effet, il a fallu des millions d'injections de vaccins ARN messager chez les adultes et les jeunes pour mettre au jour cet effet indésirable très rare qui semble un peu plus toucher les garçons adolescents. Alors existe-t-il aussi chez les 5-11 ans avec le vaccin qui leur est dévolu? Le déploiement de la vaccination dans cette tranche d'âge permettra de le savoir. En tout cas, pour la FDA, les bénéfices du vaccin l'emportent sur les risques éventuels chez ces enfants.
Au Canada, le gouvernement souhaite indemniser les enfants autochtones. Précision de Christophe Paget pour RFI.
En 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne estimait qu'Ottawa avait discriminé les enfants autochtones en sous-finançant volontairement les services à l'enfance et à la famille dans les réserves, ce qui a conduit au placement de milliers d'enfants dans des familles d'accueil. Le gouvernement canadien a été condamné à indemniser ces victimes, estimées à plus de 50 000, ainsi que leurs parents et grands-parents à hauteur de 40 000 dollars canadiens. Ottawa avait fait appel en 2019, estimant que pour une indemnisation individuelle, il fallait prouver un préjudice individuel. Appel perdu le mois dernier. Un nouvel appel a donc été annoncé hier. Cette fois, le gouvernement veut se donner du temps pour trouver un accord à l'amiable avec les organisations autochtones d'ici fin décembre. Et insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de réduire les montants décidés par les tribunaux, mais de dédommager équitablement les victimes et changer le système. Des représentants de ces enfants se sont dit déçus. La saga judiciaire dure depuis 14 ans. Mais selon Ottawa, deux groupes, dont l'Assemblée des Premières Nations, ont accepté de négocier. L'un d'eux a annoncé que si aucun accord n'était trouvé, ils iraient aux audiences dans le cadre d'une procédure accélérée. Nous ne voulons pas que les enfants perdent davantage de temps.
Adam Kinzinger, le républicain élu de l'Illinois à la Chambre des représentants et opposant de Donald Trump, a décidé de prendre sa retraite politique aux prochaines élections. David Thompson, RFI.
Il est l'un des rares républicains à oser encore critiquer Donald Trump et son refus obstiné de reconnaître sa défaite. Un positionnement qui coûte cher chez les conservateurs américains car l'ancien président reste la personnalité la plus influente dans son parti. Les sondages sont unanimes. Deux tiers des républicains, dupés par la rhétorique fallacieuse de leur chef, croient toujours que la victoire leur a été volée. Minoritaire, vilipendé dans son propre parti, Adam Kinzinger, 43 ans, représentant de l'Illinois depuis 2011 à la Chambre, renonce donc à se représenter.
Notre parti survit en séduisant uniquement sa base la plus extrême. En tant que pays, nous devons nous débrancher de toutes les contre-vérités qu'on nous inflige. Au Congrès, j'ai vu combien les divisions sont profondément enracinées. Presque aucun désir de nous rapprocher. Le mot « unité » n'existe plus.
Et de deux, plus que huit, s'est immédiatement réjoui Donald Trump qui a juré de se venger contre ses 10 élus républicains qui ont osé voter son impeachment après l'attaque du Capitole le 6 janvier. Aux prochaines élections, chacun aura donc face à lui un candidat soutenu par Donald Trump. Sur ces 10 républicains dissidents, Kinzinger est en effet le second à jeter l'éponge.
On passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 25 degrés. Adelaide, 23. Melbourne, 21. Hobart, 18. Canberra, 20. Sydney, 24. Brisbane, 25. Cairns, 33. Darwin, 35. Et à Alice Springs, maximal de 23 degrés. Un rappel des grands titres de ce 31 octobre, les dirigeants du G20, des plus grandes économies du monde, se réunissent pour approuver un accord fiscal mondial et discuter des vaccins contre le coronavirus pour les pays les plus pauvres. Et puis en Australie, hommage à la légende australienne du show business, Bert Newton, décédé à l'âge de 83 ans. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.